Bienvenue sur la Comme en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien libanais.
Boker Tov, monsieur le grand rabbin.
Boker Tov.
Comment Olivier. Ça va?
Très très bien, merci.
On est
beaucoup.
En bonne compagnie aujourd'hui avec un de tes collègues, attention, je vous préviens tout de suite.
Le rabbin Gatzobag.
Ça va?
Ça va quoi?
Ça va.
Bah oui,
pulser.
On est là avant veille de Shabbat, on a la pêche, la vie est belle.
On a la pêche à la veille de
Tu Bishvat, exactement.
Boker Tov, bienvenue.
On a la banane.
Le rabbin Rav, on dit Rav, rabbin.
Ouais,
monsieur
pareil,
le rabbin Gad Sebag.
Bonjour, bonjour.
Et on va démarrer la première chronique.
Le pro de la semaine.
Alors, le pro de la semaine, j'ai pas envie de révéler son identité immédiatement, comme on le fait souvent. On aimerait d'abord le laisser parler, qu'on entende quelques notes de sa voix pour que nos auditrices et nos auditeurs, dont beaucoup le connaissent déjà, puissent essayer de l'identifier. Et puis si jamais vous ne trouvez pas au bout de quelques secondes, voilà, on vous dira qui c'est. Alors bonjour, cher invité mystère.
C'est Boker Tov, mon rabbi.
Comment ça va, Bibi?
Très très bien, et vous?
Alors, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est notre ami.
C'est notre ami Nasser.
Nasser qu'on croise presque tous les Shabbats.
Pas que tous les Shabbats, on le croise presque tous les jours.
Tous les jours. Raconte-nous un peu Nasser. Tu travailles depuis combien de temps dans le monde communautaire comme ça?
Ça fait depuis 2000.
On dit. 2000, 22 ans.
Oui.
23, on est en 2020, on est en 2023, Olivier.
Avec,
s'il te plaît, aide-moi.
2023.
Oui, avec un traiteur 2007.
Waouh.
Voilà, donc ça fait un bout de temps maintenant. Alors, voilà, raconte-nous un petit peu comment tu as connu la communauté. On apprendre un peu plus sur toi. Finalement, on te voit tout le temps souriant, on te voit tout le temps plein de vie. Voilà.
Je crois que tu as une histoire de vie qui est vraiment particulière.
Je pense que la communauté, elle connaît moi plus que mon famille, plus les enfants. Je t'ai dit 10 fois qu'il faut prendre rendez-vous avec ma fille. Il y a 10 fois, elle dit je téléphone le rabbin pour te prendre rendez-vous.
tu passes plus de temps avec
toi. Exactement.
Nasser, comment
t'as d'enfants? C'est un peu comme les rabbins, finalement, ou comme les acteurs communautaires, ils passent plus de temps dans la communauté qu'avec leur propre famille.
Moi aussi, des fois, je me demande combien de temps je passe ici par rapport au temps que je passe à la maison.
Exactement.
Nasser, raconte-nous, tu as combien d'enfants?
Il y a 3 filles.
3 filles, waouh, ça c'est courageux. J'en ai déjà 2, c'est du mal, mais alors 3. Bon, c'est pas, c'est, par rapport à 5 garçons ou 6 garçons.
Non, 3 filles, grâce de Dieu, ça y est.
Et tu es né à Strasbourg?
C'est toute une histoire. Nasser, on a le temps. Tu peux nous raconter tout.
Où tu es né, Nasser?
Non, je suis né à Bagdad.
À Bagdad?
Bagdad.
Il faut préciser que tu es en fait compte d'une famille chrétienne, Bagdadi.
Bagdad, j'ai resté jusqu'à l'année 80-91. Après, je suis sorti de Bagdad sur la cause de la guerre.
J'avais 8 ans, Nasser. J'avais 8 ans, moi.
Voilà, ok. Après Bagdad, c'est le Jordan. Après, de là-bas, c'est le Russe. J'ai resté là-bas à peu près 2 ans. Il y a de Russie. Enfin, en Espagne, j'ai resté 3 mois.
Wow.
D'Espagne, encore Russie, mais en Russie, j'étais à Saint-Pétersbourg, Moscou.
Avec les filles, Ménis. L'alcool.
Ben,
il y a le rabbin, on peut
non,
parler,
non,
mais
non,
bon,
je suis monde. Célibataire. Ça, on dit c'est avec les blondes. Avec les blondes, c'est plus là, c'est plus gentil. Après le Russe, c'est l'Espagne. Après l'Espagne, Roumanie. Après de Roumanie, j'ai resté en Finlande, Helsinki.
En Finlande. Là, tu t'es dit, il fait trop froid, on part.
Voilà,
tu as fait du ski ou pas,
Nassa? Grâce de Dieu, non.
comment, après des pays aussi grands et aussi beaux, tu te retrouves dans cette magnifique ville de Strasbourg?
Tu sais, chaque ville, c'est très bon pour, avec les gens qui vivent là. Et, tu sais, depuis que j'ai 2000, la première fois que j'ai visité Strasbourg de Helsinki, c'est l'année 2000. Et à l'année 2000, là, c'est les changements de ma vie. Je tombais sur Michel Abitbol. C'est le frère de Benhas. Restaurant Contad, qui est là.
Qui n'existe plus.
Voilà, ça, maintenant, ça n'existe plus. Mais plus... Je suis Benhas. Benhas, après, tu sais, quand ton question commence, les gens de Strasbourg, franchement, je ne connais pas beaucoup d'Irakiens, surtout les catholiques, que je connais blanc de juifs. Il y a 10 fois, c'est vrai, ça, c'est parti de ma famille, qu'eux, ils disent toujours, vous êtes parti de notre famille. Il y a 10 fois, franchement, je cherche pour le moment un travail stable, mais le problème, c'est quoi? Le problème, comme l'aquarium, quand tu mets le poisson dedans, quand tu sors le poisson, elle meurt. Je suis comme ça. Si je sors de communauté juive, j'ai perdu. Ouais, je sens les choses, je te jure, c'est les choses bizarres. Il y a plein de choses, parce que c'est vrai, quand tu travailles, j'arrive même pas à dire je travaille chez les juifs, parce que c'est pas un travail.
Tu vois, on te sent comme un poisson dans
l'eau. Voilà, exactement. Vrai, ouais. Là, surtout, les grands rabbins, ils connaissent très, très bien. Ils ne savent pas est-ce que c'est le travail, est-ce qu'il est dense, est-ce qu'il est beau boire, est-ce que c'est quoi qui c'est. Il y a 10 fois que les gens qui viennent la première fois, ils ne connaissent pas. C'est qui, là? Surtout quand il n'y a pas de kippa.
Et alors, raconte-nous, tu es d'origine chrétienne, et tu quittes Bagdad, hein, c'est le moment de la guerre, tu vas voyager après, etc. Ici, à Strasbourg, tu fréquentes une communauté chrétienne, comment ça se passe?
C'est vrai, à la banque, j'étais très, 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 très proche à l'église, parce que j'ai le temps, mais malheureusement, maintenant, on doit adapter aux juifs. Demande-moi, c'est la même question de synagogue, de juif, peut-être je connais plus. Il y a communauté avant, ici, il y a à peu près 11 familles. Mais maintenant, il y a plein de catholiques de l'Irak. Il y a plein, surtout irakiens, Strasbourg.
Ça veut dire, Nasser, si on lui demande l'horaire de la prière, à Hafetz Chaim, il connaît, mais l'horaire de la messe le dimanche, il ne connaît pas.
Exactement. Il connaît tous les horaires des offices. Il connaît très, très bien les halakhot de Shabbat aussi.
Avec les platanes.
Et en plus, Nasser, tu parles araméen, non? En plus,
oui,
Nasser. C'est ça ce qui est extraordinaire.
Voilà. Il faut expliquer peut-être.
Il faut comprendre que, alors,
à nos auditeurs.
Nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas bien comment fonctionne l'organisation du Talmud, il faut savoir que le Talmud, chez nous, est écrit et rédigé en araméen, et que l'araméen est une langue très courante, c'est la langue vernaculaire de l'époque dans le monde juif. Et donc tout le Talmud de Babylonie est rédigé en araméen. L'araméen est une langue extrêmement complexe, alors même si on va retrouver certaines racines qui évoquent un petit peu la langue hébraïque, c'est un apprentissage en soi. Et donc même les personnes qui sont très à l'aise avec l'hébreu ne le sont pas forcément avec l'araméen. Et lorsqu'on apprend aux enfants qui étudient la Torah, qui découvrent leur premier texte, l'araméen, il y a tout un travail. Ça prend des années, et souvent, même après plusieurs années, et même après des années de yeshivot, les gens, les étudiants en Torah ne sont pas aussi à l'aise avec l'araméen qu'avec l'hébreu.
Ah, c'était la langue de la Mésopotamie, en fin de compte, et c'est pour ça que les chrétiens...
Nasser parle araméen, donc nous allons continuer cette émission en araméen.
Excuse-moi, je coupe ton parole, rabbin. Les hébreux, c'est la seule langue, jusqu'à aujourd'hui, je pense, elle n'est pas trop changée.
Mm-hmm. Ah oui.
Ça fait 6000 ans. Mais malheureusement pour l'araméen, ça changeait beaucoup parce que le problème, l'accent de Syrie, c'est différent que l'accent de l'Irak. Mm-hmm. Ah, l'accent de l'Irak, c'est différent de Jordanie. Et plus, en Irak, il y a plein de villes, par exemple, qui, nord de l'Irak, l'accent est différent que de Bagdad.
C'est un peu comme l'Alsacien, quoi.
Oui, bah, à peu près. C'est pour ça. C'est encore l'autre chose que tout le monde qui est parti, les catholiques qui sont partis de l'Irak, ailleurs du pays, commence à adapter la langue du pays qui, par exemple, en Amérique...
Mais vous parlez araméen entre vous?
Ça...
C'est une langue qui se parle entre vous?
J'ai une grande guerre à la maison avec les enfants parce que c'est interdit de parler français à la maison.
Ah, alors vous parlez araméen à la maison?
Il y a 10 fois...
Français.
Non. Interdit. Araméen, comme ça, ne perd pas la langue. Il y a les enfants, ils le prennent. Il y a 10 fois que je voudrais parler quelque chose comme ça, les enfants, ils ne comprennent pas. Avec ma femme, je parle l'arabe. Mais eux, elle est malade, elle a pris l'arabe encore mieux que moi.
Alors dis-nous quelque chose en araméen. Dis-nous, je suis content d'être ici, en araméen.
On dit, Rabba, Kiben Nour Kabira, Kiben Nour Kabira, ou Ana un Akhela, Balaha Fsicha, Basku Akhtum Akhela. ناش ديان ناش ديان ميك بنا مرنخ Anna, très, très, très. Yani, كلش,
Anna, ça, Anna, c'est moi, non ouais, Anna, ouais, voilà, voyez, voilà, c'est vraiment de l'araméen, on comprend. Si on écoute bien, c'est l'accent qui change, mais les mots sont vraiment.
Y a, tu sais quoi, il n'y a pas beaucoup de choses. Par exemple, le bracha, c'est le bricha.
Ouais. Bricha, c'est en araméen, on dit bricha.
Bricha. Le shmu'illi. Shmu'illi.
Écoutez,
shma. Il y a shlamiloch. Shalam. Shalom alaykoum.
Shalom alaykoum. Shalom alaykoum. Paix sur toi, paix sur toi. Shalom alaykoum. C'est vraiment. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une langue, effectivement, qui est presque. C'est une langue, c'est une des langues, une des plus vieilles langues aussi, quoi.
Exactement.
Et c'est vrai que le fait qu'il se vient là avec la langue, c'est assez magnifique, quoi.
Shalom alaykoum.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais que ça te touche beaucoup, ce genre d'histoire.
Bien sûr. Mais en fait, très souvent avec Nasser, étant donné qu'on est en contact perpétuel, donc du coup, c'est à chaque fois. D'abord, c'est un grand philosophe, Nasser. Et même s'il n'a pas encore bu les Chaïm, c'est un grand philosophe. Il a des grandes philosophies de vie. Il me parle souvent de ses filles, du mariage de sa fille cet été, etc. Il nous a tous invités au mariage de sa fille. On a bu un lechaïm à distance, mais c'est toujours un plaisir en fait de voir des civilisations qui ont vécu en parallèle et voir ces ponts qui peuvent se créer, ces liens qui existent, que ce soit dans la langue, dans la manière d'être, dans la philosophie de travail, etc. Et c'est passionnant finalement de voir comment est-ce qu'un monsieur qui a vécu en Irak et dans le reste du monde, il rencontre un Marseillais de naissance qui a grandi à Paris, qui a vécu en Israël et qui se retrouve à Strasbourg. Et d'un coup, on trouve des affinités, on trouve des connexions. Moi, je trouve ça, incroyable, ouais, c'est incroyable. Génial.
C'est comme si tu avais rendez-vous à Strasbourg, quoi. Dans ta vie, c'était inscrit comme ça, quoi. Il fallait que tu nous retrouves.
Tu sais, je voudrais juste répondre à Gad qui l'a dit. Je te dis, Gad, moi, je dis quelque chose. Il y a peut-être le grand rabbin, elle connaît ça. Mon bracha de mon journée, que j'ai très proche de la communauté juive. Même si des fois, je n'ai pas prié, même des fois, j'ai très loin de bon Dieu, mais quand j'étais avec les juifs, j'ai pris le bracha. Il y a le bracha, c'est quoi le bracha? Des fois, le bracha, elle vient chez moi comme l'amour. Là, quand je suis avec les communautés, l'amour qui le bon Dieu qu'il m'a donné, ça, c'est le bracha que je vis aujourd'hui. J'ai un montant de problèmes. Mais est-ce que tu jamais senti, Eli Nasser, il a un problème? Non. Ça, exactement qu'on appelle le bracha de bon Dieu.
C'est vrai que tu te plains jamais.
Ah, ouais. C'est clair.
Ce qui est extraordinaire chez Nasser, on a souvent des discussions. Hein. Il a une très grande philosophie de vie. Ça nous est souvent arrivé de parler, même de rester longtemps discuter après un kiddush ou une autre manifestation. Nasser a une grande philosophie de vie. Et quand... Vous voyez, on gratte un petit peu pour comprendre tout ce qu'il a vécu. C'est impressionnant, toutes ces pérégrinations, tous ces voyages. Et garder cet optimisme, garder ce regard vraiment pétillant sur la vie, moi, je trouve que c'est une leçon de vie vraiment pour chacun d'entre nous. On ne l'entend jamais se plaindre. Il est tout
on
le temps...
On parle souvent de Avat Hashem.
Tu as une grande foi. Je sais que Nasser est porté vraiment par une grande émouna. Il a une grande confiance en la vie, une grande confiance en Dieu.
Je crois que ça fait une communauté de gens qui... On peut avoir une communauté de gens qui ont une foi... de partager, d'avoir la foi, c'est une communauté en soi, hein, quelque part.
Tu sais, moi, je te dis quelque chose. J'étais en Irak.
Tu retournes des fois en Irak, hein?
Non, jamais. Quand j'étais avant, là-bas, je viens de famille très riche. Nous travaillons de bijoux. Il y a mon religion, quand j'étais là-bas, c'est l'argent. Il y a les femmes. Non, mais je te dis, franchement, il y a, tu sais, que le bon Dieu qu'il veut... Toi, vous êtes mon fils. Tu sais, elle est pris toi de là-bas. Il y a même, quand je suis catholique, j'étais là-bas. Vraiment, même quand il y a cette dame, nous vivons très, très, très bien. Je parle de catholique, ok? C'est lui qui est toujours derrière. Mais 10 fois que je suis sorti de l'Irak, je pose les questions, j'étais très, très, très bien. Pourquoi j'ai sorti? Il y a la question... Là, tu sais, c'est toujours le bon Dieu, le lama de bon Dieu derrière tout. Qu'est-ce que ça arrive?
C'est
il y a de Razaka.
C'est un regard, c'est la capacité, et c'est très fort ce que dit Nasser.
Très, très fort.
La capacité à se poser des questions par rapport à ce qui m'arrive dans la vie. Est-ce que ce qui m'arrive est le fruit du hasard, ou est-ce que ce qui m'arrive dans la vie, voilà, est le fruit d'autre chose, qui doit me poser des questions et qui doit, voilà, m'interpeller par rapport à ce que Dieu attend de moi et par rapport à ma propre existence. Et je peux vous assurer que tout le monde ne se pose pas la question. Beaucoup de gens vivent des choses dans la vie, parfois des bouleversements, sans se remettre en question ou sans se poser des questions.
Il y a des fois, Rabat, des fois, il y a les choses qu'on... Le bon Dieu, ils savent nous très, très faibles. S'il laisse moi, pas avec la communauté juive, par exemple, toute seule ou avec notre Irakien, j'ai perdu. J'ai perdu, ça veut dire, parce que 10 fois, le foi, c'est quoi? Le foi, quand tu entres les synagogues et tu attends les gens qui les priaient. Même si tu ne comprends pas tout, mais 10 fois, un mot. C'est adressé. D'où, lui, c'est pour toi.
Et ça, il fait le plus beau chiot.
Non, je te jure, 10 fois, tu veux pleurer. C'est comme le bon Dieu, il veut parler avec toi, avec cette mot.
Nasser, il a fait l'actu, ouais. L'actu du rabbinat. L'actu du rabbinat.
Il a fait toutes les chroniques en même temps. Il a fait toutes les chroniques en même temps.
Alors, vous voyez, c'était, je crois vraiment, je crois que c'était vraiment l'idée pour celle qu'on voulait avoir Nasser avec nous.
Non, c'était touchant de t'avoir. Voilà, parce que tout le monde te connaît. Tout le monde t'apprécie, tout le monde plaisante avec toi. Et en réalité, les gens ne te connaissent pas forcément de l'intérieur, ils ne connaissent pas ton histoire. Et c'était intéressant d'écouter.
Alors, chers auditeurs, quand vous croisez Nasser,
vous ne le verrez plus de la même manière.
Venez le parler avec lui, il adore se poser avec chacun de nous. C'est une de ses grandes qualités. Moi, je sais que c'est un moment que tu adores quand on se pose 5 minutes les uns les autres avec toi.
Merci beaucoup.
Et vraiment, merci beaucoup. Non, je sais pas, Harold, si tu as d'autres questions.
Ce qui est surtout incroyable, c'est que Nasser, quand il est dans un kidouche, il regarde, il toise comme ça toute l'assemblée. Et donc, il va ramener le piment à un tel.
Oui, c'est ce que chacun aime. Il va faire plaisir à chacun.
Celui-là, il va essayer.
Il fait plaisir à chaque personne.
Tiens, je t'ai ramené à toi les cacahuètes. Et il sait exactement tout
ce que chacun aime.
C'est impressionnant.
Ça, c'est pas professionnel. Je te dis, je t'ai dit.
C'est l'attention que tu portes aux gens.
Parce que quand tu aimes quelque chose, tu aimes faire le meilleur des choses. Énorme, ça, c'est ton travail. Tu essayes pour faire your best.
It is.
Ça, tu sais quoi?
Colle les tovas, comme on dit.
Voilà, exactement. Il y a 10 fois, j'ai eu un problème avec mon patron. Qu'est-ce que nous gagne? Je dis, moi, te vendre 1 euro ou te vendre 100 euros pour moi, c'est la même chose. Les clients, il faut sortir content. Il y a 10 fois, les clients, surtout les juifs, tout le monde l'a dit, c'est un spécial, un client spécial. Non, ce n'est pas spécial. Les clients, les juifs, ils aiment le contact. Ils aiment Coco. Ils ont dit, regarde, tu sais, là, le rabat, qu'est-ce qu'il aime? Je sais qu'est-ce qu'il garde. Ça te touche, eux. 10 fois, il n'y a pas besoin de te demander. Mais t'es là. Il y a 10 fois, le client, il dit, quand t'es là, ça y est, c'est tout.
Ah ouais, c'est clair. On est juste content, on est bien avec toi.
Tout bien content. Il y a ça, c'est parti. Je te dis, ça, c'est le bracha du bon Dieu, qu'il donne l'amour. Il y a nous, quand tu donnes l'amour, il faut te donner l'amour de tout le monde.
Magnifique. Quel mot de la fin.
C'est un très beau mot de la fin. Magnifique.
Et quel Emouna. Moi, je suis vraiment touché par cette communion de foi, de croyance. Et franchement, c'est très
impressionnant. Il y a le rabat, excuse-moi, il est là. Toujours, moi, je demande le rabat pour prier. Je demande à tous les clients qui je connais, qu'est-ce que nous fait pour toi? Prier. Comme quoi, quand tu pries, ça... C'est le bon Dieu.
Regarde, il nous a aussi dit qu'il fallait qu'il y ait un peu plus de pourboire. Ouais. Il ne le dit pas, notre ami Nasser, mais Gadi, là, je l'ai entendu.
Nasser, c'était un plaisir de t'avoir. Merci vraiment beaucoup. Un grand plaisir.
Merci.
Et à très, très bientôt.
Et à très bientôt, merci. Nasser. Merci beaucoup.
Salut, Nasser. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Là, on enchaîne direct sur la chronique suivante.
Les news du rabbinat.
Et news du rabbinat.
Gad, notre ami Gad, comment tu vas?
Très bien, et toi?
Touchant à cette intervention.
Incroyable, incroyable. J'adore Nasser, moi, c'est un garçon que j'adore.
Et il nous a déjà fait presque le Dvar Torah de la semaine. C'est impressionnant, quoi, cette Emouna.
Tout à fait.
Quelle leçon de vie, quoi.
Très souvent, moi, quand je lui parle, étant donné que dans le cadre de la cache-route, donc je suis amené à lui parler, il me dit, regarde, Gad, je respecte toutes vos règles, mais j'ai peur de Dieu. Donc du coup, parce que je veux pas mentir, je veux pas tricher, donc j'ai beaucoup plus peur de Dieu que de ce que tu pourrais me faire toi en me criant parce que tu travailles pour la cache-route.
Tu cries parfois, Gad?
Non, ça m'arrive jamais, voyons.
Il sort les crocs seulement.
Gad, il a sur le sourire. Ça. Vous partagez un point commun, Nasser et toi, c'est vraiment cette joie de vivre au quotidien, quoi.
Ah, c'est gentil.
Gad, raconte-moi un
peu. Et l'amour du whisky aussi.
Ouais, lequel vous préférez?
À consommer avec modération.
Bien sûr. Harold, tu m'as fait perdre le fil conducteur. La semaine prochaine, c'est tout Bichefat.
Même pas la semaine. Oui, la semaine prochaine, tu as raison, parce que c'est effectivement dimanche soir, mais c'est en tout début de semaine prochaine.
Voilà. Donc, dimanche, c'est tout Bichefat. Ça
très
commence
beau programme.
Quand? Ça se passe comment? Raconte-nous un peu comment Rabina se.
C'est magnifique parce qu'on a prévu plein de belles choses. Alors, ça commence le dimanche matin à 10h30 à l'initiative du rabbinat et du nouvel élu, notre ami Tristan Arama, qui a proposé qu'on aille tous fêter Tou Bichvat avec nos amis de Elisa. Et donc c'est ce qu'il y a de très beau, parce que finalement, par exemple, le Talmud, il nous raconte qu'un jour, un homme voyait un agriculteur en train de planter un caroubier. Alors il lui dit, écoute, le caroubier, t'as déjà 60 ans, il va te falloir 70 ans pour pouvoir en profiter, tu seras déjà mort. Il dit, mais moi j'ai profité des caroubes pendant toute ma vie grâce à mon père ou mon grand-père qui l'a planté.
Notez la petite histoire talmudique de
voilà,
Gad.
Exactement. Et donc forcément, moi aussi je le plante pour mes petits-enfants. Et ben, si on profite aujourd'hui de notre vie communautaire, si on profite de nos fêtes, de pouvoir, c'est grâce à nos prédécesseurs, grâce à nos anciens. Et donc c'est normal, c'est vraiment la fête par excellence où il faut tendre la main, aller voir justement nos anciens à Elisa, c'est magnifique, pour pouvoir justement, dans ce cadre en plus qui est idyllique, qui est très, très
ouais, nature,
en rapport,
quoi.
Très naturel, exactement. Et donc de pouvoir fêter Tou Bichvat là-bas dès le matin, dimanche matin à 10h30.
Il faut juste expliquer, la Fondation Elisa, elle est à Geispulsheim.
Exactement.
Juste au bord de la forêt, c'est vraiment un cadre champêtre, comme on dirait.
Exactement.
Alors, Tou Bichvat, c'est la fête de ces nouvel an des arbres. Est-ce que ce lien entre les aînés et que tu fais là et le nouvel an des arbres, il te paraît aussi assez évident, mais explique-le-nous peut-être plus en détail.
Alors, l'histoire que je viens de raconter, elle est la plus grande preuve, mais à part ça, c'est exactement cette idée que finalement, le Tou Bichvat, c'est d'abord et avant tout une problématique comptable, on a envie de dire d'un point de vue de la halakha. C'est que c'est la date charnière pour essayer de faire en sorte qu'on doit prélever certaines dîmes des fruits, et il faut absolument prélever la dîme d'une année, et on ne peut pas prélever d'une année à une autre. Maintenant, c'est quand la date charnière, les impôts, ils ont décidé que c'était, voilà, telle date. Et
c'est l'année fiscale, hein, c'est l'année civile.
C'est l'année civile, et l'année fiscale, c'est Tou Bichvat. L'année fiscale des fruits, exactement. Et donc, c'est un des quatre nouvelles.
C'est là où tu te fais bananer.
Voilà. Et donc, là, on a enfin compte, on a un nouvel an des fruits, mais ce que j'ai à comprendre, c'est que c'est beaucoup plus que juste un nouvel an des fruits, etc.
C'est pour ça que je dis, du point de vue de la halakha stricte, on est dans l'administration. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on invite une personne à essayer de réfléchir? Ça ressemble un petit peu à Soukhot, au moment où on engrange notre blé, c'est à ce moment-là où on doit essayer de réfléchir. De réfléchir à quoi? On a travaillé, on est en plein milieu de l'hiver, on a travaillé, on a bossé sur notre terre, on a essayé et on essaie de porter nos fruits. Mais quelqu'un qui ne réfléchit absolument pas à sa vie, à ses erreurs, à son passé, à l'expérience qu'il a amenée, il ne peut absolument pas appréhender une nouvelle année fiscale ou quelle qu'elle soit. Et donc le fruit par excellence, l'arbre, le fruit, c'est exactement ce fruit où j'ai essayé de me projeter dans l'avenir. J'ai travaillé en amont, j'ai appris de mes erreurs précédentes, j'ai appris des erreurs précédentes de mes aïeux, et là, à ce moment-là, je peux prévenir un avenir intelligent. Mais si finalement je ferme les yeux, jamais je me retourne, jamais j'essaye d'appréhender les erreurs ou l'expérience de mes aïeux, et à ce moment-là, il n'y a pas de question, on fonce dans un mur, il n'y a pas d'autre issue.
Ouais, ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une récolte, on va dire, de l'année, mais il y a en même temps aussi une reconnaissance de l'arbre qui est planté depuis des dizaines d'années.
Il y a la mise aussi en lumière sur un potentiel, je crois que c'est ça. Bon, c'est une leçon basique, on va dire, de Tou Bichvat, mais c'est une question naturelle qu'on se pose. Comment peut-on fêter Tou Bichvat au cœur de l'hiver, a priori la nature est à son point mort, les arbres n'ont pas encore commencé à bourgeonner, et la nature a l'air d'être même plus qu'à l'arrêt, parfois elle a l'air de ne plus fonctionner, et en réalité, voilà ce que nous savons, parce que nous avons maintenant quelques années d'expérience et d'observation sur la nature, c'est que secrètement, cette nature, elle continue à fonctionner en réalité. Ce qui n'est pas visible, eh bien, fonctionne à l'intérieur. La sève commence déjà à monter à l'intérieur des arbres. Et ce potentiel, il existe, il est là. Il ne demande qu'à pouvoir jaillir à l'extérieur. Et je crois qu'il est très important parfois de pouvoir mettre l'accent aussi sur ce potentiel. Chacun doit se tourner sur son propre potentiel, être en capacité finalement de réfléchir à son propre potentiel et se dire eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce potentiel.
Ça me fait penser un peu à Birkat Alevana, la bénédiction de... Je ne sais pas si c'est un lien pour vous, mais ça me fait penser un peu à cette idée-là du début de la bénédiction du début du mois où la lune est...
Oui, tout à fait,
visible,
bien sûr, tout à fait.
On est vraiment dans le noir du début du mois, et c'est
exactement,
et c'est là où, quelque part, on se pose des questions sur la vie.
On célèbre un petit peu ce potentiel, bien sûr. Il y a des passerelles, il y a des liens. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on célèbre ce Kiddush Halevana. C'est aussi célébrer finalement un potentiel qui va se développer durant les jours qui suivent. Et c'est exactement la question finalement qu'un juif doit se poser en permanence, mais qu'il se pose particulièrement à ce moment de l'année. J'ai en moi un potentiel qui est extrêmement fort, un potentiel qui ne demande qu'à jaillir. Que faire
Est-ce
de
que
ce
le potentiel,
potentiel
de Tu Bishvat, c'est un peu celui de la lune où on se souhaite Simra et Parnassa, c'est-à-dire joie et réussite professionnelle?
Alors, bien entendu, surtout que le mot fruit, les fruits, les arbres fruitiers, le péri, c'est la multiplication, c'est l'abondance.
C'est la bracha.
C'est la bracha, c'est le thème qui a été déjà
évoqué. Il faut vraiment revenir là-dessus juste avec pour nos auditeurs, c'est la même racine, tu veux dire, que
racine,
le mot bracha.
Alors, c'est péri, le mot péri, pour vous, quand Kadosh Baruch Hu, ils nous ont, le péri, c'est le fruit en hébreu, et le verbe fructifiez-vous, qui va justement cette multiplication, cette volonté c'est la première mitzvah de la Torah, où Kadosh Baruch Hu, il parle, pour vous, multipliez-vous, et devenez plus nombreux.
Ou Milou est à Arez. Milou est à Arez. Milou qui veut dire remplissez, qui n'a rien à voir avec le chien de Tintin.
mais pour continuer, dans la droite ligne de monsieur le grand rabbin, c'est-à-dire clairement, et ce que tu disais Olivier avec la Levana, la lune, c'est que finalement la nature, elle est là pour nous donner un tremplin, pour nous donner un élan, et je vais surfer entre guillemets sur un état d'âme qui est naturel face à la nature pour m'en servir comme il faut pour essayer de vibrer quelque chose de très fort. Le matin on fait la prière quand le soleil s'est enfin levé, on va pas faire la prière quand il fait nuit, c'est quand le monde crie le réveil, et ben toi aussi tu cries ce réveil en associant à Kadosh Baruch Hu, en associant lorsque le soleil est à son zénith à Mincha, c'est à ce moment-là où on est un peu écrasé par le soleil, ben tu te dis oui, je ressens quelque chose, donc je surfe sur cet état d'âme qui est rattaché à la nature pour essayer de développer quelque chose de spirituel à l'intérieur de moi. Donc toutes les fêtes qui vont avoir une portée touchée sur la nature et en même temps sur une mitzvah quelle qu'elle soit, et ben finalement c'est une invitation à surfer, et ouais, excusez-moi mais c'est le mot le plus adapté, à surfer sur l'état d'âme que tu ressens pour essayer de d'intégrer quelque chose de très fort à l'intérieur de
nous. On sent que tu as envie de partir au ski,
Gad. Tu pars quand, Gad?
je reste sur Strasbourg en Alsace, cette chère terre qui m'a si bien accueilli.
Alors on arrive un peu à la fin de notre chronique, je sais pas quoi.
Alors on va juste quand même parler, donc puisque le rabbin Sobag a commencé à évoquer le programme de Tu Bishvat, il y a ce rendez-vous magnifique avec nos anciens dimanche matin qui se fera ici dans un cadre un petit peu intime, pour toutes les raisons qu'on imagine, à la fois bien sûr des raisons toujours sanitaires et puis aussi pour ne pas trop perturber aussi nos aînés, donc nous irons à Elisa avec l'ensemble du rabbinat, le conseil d'administration et l'ensemble des responsables aussi des différents kalim, des différentes communautés strasbourgeoises. L'après-midi, et ça commence déjà le matin à 11h45, il y a un Lego Master qui a été organisé par notre cher ami Stéphane, autour bien sûr du thème de Tu Bishvat, et ça a tellement bien fonctionné qu'on a dû rajouter un créneau justement, parce qu'il y avait deux créneaux prévus pour deux tranches d'âge d'après-midi, et qu'un créneau a été rajouté de 11h45 à 13h45, parce que toutes les inscriptions étaient déjà complètes, et lorsque j'ai dit à Stéphane, que mon fils était en pleurs en apprenant qu'il n'y avait plus de place, Stéphane a immédiatement ouvert un créneau supplémentaire, bien sûr, n'y voyait aucun piston, et bien sûr, c'est pas un créneau qui est réservé uniquement à mon fils,
à ton fils.
Ou à mes enfants.
Il y a tous les enfants, ça fait presque un créneau des enfants.
Ni à mon neveu, mais c'est bien sûr pour tout.
Ça n'est pas du piston.
Non, mais c'est facile, vous mettez les
enfants du
rabbin.
Tous les enfants de cette tranche
d'âge. Plus le rabbin de tes enfants. Non, ouais.
Voilà, qui souhaitent s'inscrire. Donc il reste, il me semble, encore quelques places pour ce créneau. Donc ça va être très très sympathique de voir les enfants utiliser leur imagination pour créer des sculptures. Tout à fait.
Ce sont
des groupes qui s'affronteront en fait sur des défis de construction de Lego autour du thème de Tu Bishvat. Et puis, ne ratez pas notre grande soirée soirée communautaire, dimanche soir. Les affiches, vous les avez un petit peu partout au centre
Stéphane
communautaire.
Stéphane va nous faire un peu le détail à mon avis après.
Tout à fait. Et vous les avez également, bien sûr, dans le Shabbat Shalom. Donc, je ne dévoile pas, on en reparlera avec Stéphane. Mais c'est vraiment une soirée très, très sympathique. Nous avons un petit peu travaillé ensemble pour faire en sorte, non seulement, bien sûr, qu'on soit dans l'esprit de Tu Bishvat, avec le traditionnel seder de Tu Bishvat et la consommation des fruits, mais surtout qu'il y ait à chaque fois une touche d'originalité. C'est ce que l'on souhaite. Super. Et c'est très difficile. Ouais. Vraiment, Olivier, je peux te le dire, de trouver une nouvelle idée chaque année. C'est très compliqué. On a forcément, les fêtes restent les mêmes fêtes, mais on souhaite, pour ne pas se lasser et pour être le plus attractif possible, qu'il y ait toujours un atelier ou quelque chose d'un petit peu original, et ce sera encore le cas, grâce à Dieu, cette année. Stéphane nous en parlera tout à l'heure, donc vraiment notez déjà dans votre agenda ce rendez-vous dimanche soir à 18h30. On commencera par l'office d'Arvit et on enchaînera avec cette très belle soirée communautaire. Ça se passe cette année au centre communautaire.
Gad, petit détail, tu viens nous revoir la prochaine fois pour nous raconter comment ça se passe avec ton cal, et je crois que vous avez fait un super week-end autour de la famille avec Maria Chadré. Il faudra vraiment que tu nous racontes ça dans les prochaines semaines.
On t'attend. Toujours plaisir à venir ici.
Bonne journée à toi, Shabbat Shalom.
Bonne journée à vous tous, Shabbat Shalom.
Kouchavos.
Le bénévole de la semaine.
Andale.
Boker Tov, bienvenue. Corinne.
Boker Tov.
Et cette semaine, ce n'est pas la pro de la semaine, mais le bénévole de la semaine.
Exactement.
Corinne.
Mon autre casquette.
Raconte-nous un peu. On voulait t'avoir avec nous spécialement cette semaine pour l'action solidarité que vous menez avec la solidarité féminine. L'action chauffage, excuse-moi.
Oui. Ah ben voilà, alors je suis la trésorière de la société. De la solidarité féminine juive, et cette association organise actuellement une action chauffage pour aider les personnes en difficulté et pour arriver à se chauffer durant l'hiver. Et donc, on organise une grande tombola avec vente de billets et ça se fait par des personnes qui vendent des billets de tombola, mais également via le site Hello Asso, où on peut faire un don, acheter des billets, enfin voilà. Et on attend le plus grand nombre de personnes qui se mobilisent pour nous aider à...
Alors raconte-nous un peu la solidarité féminine. Harold, tu connais bien cette association, j'ai l'impression.
Un petit peu.
Il y a un petit détail que nos auditeurs savent savoir, je crois, c'est que t'as ton épouse.
Oui, on assure la présidence. on l'aura, si Dieu veut, dans les prochaines semaines.
Ah, je ne savais pas que c'était la prochaine. Ah oui, qu'elle vienne la prochaine semaine, bien sûr. Alors Corinne, raconte-nous un peu. Donc c'est une association, qui est une très très belle association, non?
Oui.
Qui vient de...
Une association qui date, je crois, de 1834, d'après les statuts que j'ai retrouvés. Et ouais. Et,
je pensais pas, voilà, j'en apprends tous les jours, mais moi, je ne savais pas que cette association était aussi ancienne. Non, je pensais que ça avait été fondée par Madame Warchavsky.
Non, elle l'avait déjà prise. Et, mais c'était, ça s'appelait la bienfaisance.
D'accord. Et donc, ça faisait partie après, des œuvres de bienfaisance communautaire et des dames autrefois.
Des dames, exactement. Ouais.
Et donc aujourd'hui, le relais, c'est quoi vos actions?
Et donc nos actions, on a deux grandes actions dans l'année. C'est l'action chauffage qui se fait en général janvier-février pour justement la période du froid, pour aider les gens, pour solliciter les personnes à nous aider. Et puis, ça, c'est donc cette action. Et la deuxième, c'est les box de douceur qui se font au moment du Shabbos Project.
Et donc, c'est une association qui vient en soutien des familles. Et, avez des gens, vous les aidez, ils vous contactent. Comment ça se passe?
Alors, ça dépend des personnes, c'est vraiment au cas par cas. Mais disons qu'on travaille avec l'ASJ et entre autres avec AAVA, avec les autres associations, pour aider les personnes de la communauté.
Ça se fait en toute discrétion.
Et ça se fait, exactement.
Ça se fait tout au long de l'année. C'est-à-dire que là, Corinne a mis le focus sur les grandes actions annuelles.
Ça, c'est l'action chauffage.
Mais tout au long de l'année, bien sûr, il y a des aides qui sont apportées en toute discrétion aux personnes qui sont en difficulté. Et alors, il faut comprendre, et je veux dire, tout le monde le sait, on l'a dit, on le redit, il y a des défis qui se posent avec de plus en plus d'acuité. Au niveau, en ce qui concerne le chauffage, c'est l'explosion des prix de l'énergie et malheureusement l'explosion aussi du nombre de familles en demande d'aide. Et lorsque vous conjuguez un petit peu ces deux facteurs, on peut imaginer à quel point la solidarité féminine juive a besoin de plus de fonds pour pouvoir aider correctement ces familles. Alors est-ce que, ça c'est une question que il me semble que notre amie Sophie Hirsch y avait déjà répondu partiellement, est-ce qu'il y a des aides qui sont apportées directement par les fournisseurs d'énergie, des contrats particuliers qui pourraient permettre de limiter un petit peu l'explosion de ce coût de l'énergie, ou est-ce que vraiment les gens sont confrontés, chaque particulier est confronté à l'explosion et donc...
C'est plus au niveau professionnalisme, et nous, nous on n'est qu'une association que quand les personnes nous contactent, et, si on veut, on ne connaît pas vraiment leur... le fond de leur problème.
Ouais, c'est un peu,
nous, on les aide au cas par cas.
Ce qui est la bonne chose, c'est quelque part, la EJF fait la partie plutôt professionnelle d'accompagnement social par rapport à des contrats particuliers ou des aides particulières de l'Excité Strasbourg en particulier. Et ouais. Vous êtes là en solidarité, en soutien complémentaire. Nous, j'ai l'impression qu'il y a plus que de l'argent aussi. C'est un lien direct entre vous, entre les personnes en solidarité, parfois aussi, non, qui ont besoin aussi des fois d'une présence.
Oui, ben ça, disons qu'alors là, c'est dans le cadre de un peu de lumière, cette activité qui a été faite. Et ça, c'est on a une partie de notre comité qui s'occupe de ce genre d'action et qui contacte les personnes pour éventuellement leur rendre visite, les aider.
C'est vraiment du lien social, de la présence. C'est une autre action.
Qui s'appelle un peu de lumière. Un peu de lumière.
Okay. Ouais. Ça, on en reparlera une autre fois.
Exactement. C'est Esther et Esther Serf et Muriel Abergel.
Voilà. Et c'est vrai qu'elles ont fait un super boulot. C'était en plus au moment du Covid où j'ai bossé avec elles.
Tout à fait.
Elles ont continué cette action-là. Alors, raconte-nous, pour l'action chauffage, aujourd'hui, la tombola, c'est des tickets de 5 euros, 10 euros, 50 euros.
Des tickets de 5 euros, à partir donc un billet de 5 euros.
On peut en acheter 1 000 ou 1 million.
On peut en acheter autant qu'on veut, avec grand plaisir. Si
c'est
on a
les dames qui en ont, mais c'est aussi sur Eloasso. Voilà, le lien est sur dans le Shabbat Shalom.
Il y a le lien, il y a le QR code. Donc,
vous flashez, vous allez direct sur Eloasso, vous pouvez mettre 5 euros, 50 euros, 500
euros. Voilà, vous pouvez acheter des billets, faire un don complémentaire, enfin vraiment.
Il y a une logique entre faire un don, mais en même temps, c'est participer à une tombola, c'est commun. Quoi. Cette tombola, il y a des lots.
Voilà.
Et de l'autre côté, cet argent, il sert pour l'action chauffage.
Tout à fait.
C'est simple, c'est efficace.
Voilà, on espère.
Et c'est une action qui est directe, c'est-à-dire que tout l'argent qui est collecté revient directement
donné, pour
du chauffage. Il n'y a pas vraiment de frais de fonctionnement, donc c'est l'avantage finalement d'associations
dans notre
comme
association,
celle-ci.
C'est que du bénévolat. Et voilà.
Et sans frais de fonctionnement.
Ouais. Ben on essaie vraiment d'avoir le moins de frais possible au niveau de cette action. Alors, on fait sponsoriser aussi bien les lots, de récupérer des lots et on remercie les sponsors. Ouais. Et pour les billets de tombola également, d'avoir un sponsor. Enfin, vraiment,
elle dure jusqu'à quand la tombola?
Il y a une Porsche Cayenne à gagner, cette année.
Ouais, les miniatures avec une télécommande.
C'est en miniature.
C'est des clés, juste.
Alors, ça, c'est une idée aussi.
C'est jusqu'à quelle date, j'allais dire quelle heure.
Alors, le tirage de la tombola aura lieu normalement le mercredi 22 février.
Voilà, donc est-ce que c'est sous contrôle d'huissier?
Ah, ça, on n'a pas encore. Mais bon, avec plaisir.
Comme les élections. Alors, vous avez jusqu'au 22 février, mais vraiment, dépêchez-vous, participez à cette action. C'est une super action.
Exact.
On a besoin de votre soutien à tous. Et vraiment, c'est une inefficacité totale, quoi.
Voilà, on remercie toutes les personnes qui veulent nous aider, vraiment, avec grand plaisir.
Oui, j'avais une dernière question de Corinne, vraiment très naïve. Est-ce que cette aide financière qui est apportée à ces personnes pour régler leurs factures d'électricité, est-ce qu'elle est réglée directement aux fournisseurs ou est-ce qu'elle est réglée aux personnes qui elles-mêmes règlent les fournisseurs? J'imagine de toute façon qu'il y a un contrat moral qui est passé avec les personnes,
tout
que ce soit utilisé pour régler les factures.
Disons que nous-mêmes, nous aidons directement les familles. Les familles nous apportent leur facture d'électricité, de chauffage, on essaie d'avoir, mais effectivement on travaille dans la discrétion, ça il n'y a aucun problème, et on les aide directement. Et je vous dis, il y a des fois où on travaille en collaboration avec l'action sociale, et donc ça dépend. Mais en principe, nous-mêmes, Solidarité Féminine, on aide les familles directement. Alors, okay, c'est elles qui nous contactent ou c'est des familles qu'on a l'habitude d'avoir, mais voilà.
Corinne, un grand merci.
Avec grand plaisir.
Moi, je crois qu'on t'aura encore régulièrement avec nous.
Disons que c'est mes deux casquettes, hein, a priori, là, maintenant.
Mais ce qui est super, c'est aussi ça, la vie des bénévoles et des professionnels.
Il y a une troisième casquette aussi.
C'est quoi ?
Femme de Guy.
Ça, j'allais le dire, je ne sais pas. Après, on
ça,
aura
je
Guy,
laisserai
quoi.
Directement.
Et quoi, merci beaucoup de cette implication communautaire.
Plaisir,
c'est vraiment super.
Bonne journée,
et Shabbat
et puis,
Shalom.
On compte sur les gens. Voilà.
Et on compte sur les gens pour vous aider et vous pour les aider les gens. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.
Merci bien, Shabbat Shalom.
Stéphane, qu'est-ce
que
t'as ? Ouais ! Ok, Stéphane, qu'est-ce que t'as ? J'espère que tu vas bien, on est un peu à la bourre avant Shabbat. Raconte-nous le programme de ce Shabbat et surtout de Toubishvat qu'on a gardé secret pendant toute l'émission.
Voilà, surtout Toubishvat, je vais vous parler de Toubishvat parce que Shabbat, c'est peut-être plus le Merkav qui va vous parler de ça. Ça, c'est pour la partie Shabbat. En tout cas, on aura samedi soir déjà une première chose, parce qu'il y a une sortie avec Noah et donc Michael Wachnin au laser, donc qui va Génération Noah, Shabbat soir, et qui va réunir de nouveau comme une fois par mois le Shabbat soir, à peu près 40 ados. Donc,
génial.
Ça, c'est la première activité. Et effectivement, dimanche, on a une grosse journée, puisqu'on a tout Bishvat, et qu'on a organisé un truc qui est plutôt sympa, qui s'appelle Lego Masters, et ça va être... construire avec des Legos sur le thème de Toubishvat. Et on avait prévu deux séances et le succès...
Ouais, on a entendu que tu as ouvert une séance spéciale pour le fils du rabbin et tous les jeunes qui voulaient en plus.
Voilà, c'est ce qu'on disait à la radio tout à l'heure, Stéphane, qu'il a fallu que je te passe un petit coup de fil pour te dire que mon fils était en pleurs pour que dans la seconde qui suit, il y ait une troisième session qui s'ouvre.
Alors, raconte-nous surtout la soirée avec l'office et la soirée, comment elle va s'organiser.
Alors, je finis juste avec Lego Master parce que c'est important, c'est un beau programme.
C'est génial, c'est génial.
Des 7-10 ans jusqu'aux 13 ans, filles, garçons, et ça va être 3 créneaux de 2 heures, ça veut dire quand même 6 heures dans la journée.
C'est ouf.
Avec plus de 80 inscrits, c'est pas rien.
C'est fou, ouais, c'est fou.
Donc, c'est un moment important de Toubishvat. Et puis, effectivement, après, on fera l'office à 6h30 de Toubishvat à la Grande Choule, l'office classique. Et après, on a un beau programme pour Toubishvat à Saint-Gerchler. Puisque on aura la chance non seulement d'avoir un buffet de Toubishvat que je vous laisserai découvrir dimanche soir, mais on aura la chance aussi d'avoir un sculpteur de fruits qui s'appelle Monsieur Bonamant et qui est l'ancien chef du Hilton et qui viendra nous faire sur place des sculptures de fruits.
Est-ce qu'il faut s'inscrire à ce buffet ?
Non, on n'a pas besoin de s'inscrire, c'est ouvert à tous. Et ce qui va être également sympa, c'est que le rabbin Gad Sebag nous a préparé un genre de petit escape game sur table.
Sympa, il nous a pas raconté, on l'a eu il y a quelques minutes avec nous, il nous a pas raconté.
Non, parce qu'on voulait garder la surprise.
Ouais.
On voulait garder l'exclusivité.
Voilà. Je vous en dirai pas plus, mais ça va être sympa. Moi, j'ai fait le test hier. C'était pas facile, mais j'ai réussi, mais c'était pas facile. Donc c'est un bon moment de partage en famille intergénérationnel à venir salir clair. Et puis on aura également, et ça, pardon, il sait que ça me tient à cœur, alors il va rigoler. on va avoir le droit à des cagettes de fruits à gagner via une tombola.
Je crois qu'il y a une grosse private joke entre vous, c'est ça ? Une vieille et une grosse private joke entre vous.
Voilà.
Génial.
Donc on aura
Stéphane.
Un panier de fruits à gagner.
Alors, il y a les paniers de fruits. C'est une soirée qui est vraiment conviviale. Venez comme vous êtes, vous serez accueillis vraiment avec plaisir.
Est-ce qu'on peut demander au chef Bonamant de nous sculpter olives dans une pastèque ?
Stéphane, s'il te plaît. Soutiens-moi. Et en plus, je peux pas répondre parce que ça va être irrévérencieux. Parce que j'aurais pu prendre d'autres exemples de fruits, demander est-ce qu'on peut sculpter le grand rabbin. Mais je ne le ferai pas. Alors, Stéphane, on va se retrouver ce soir pour Shabbat ensemble. Ah, effectivement, on va en parler rapidement après quand tu seras plus en ligne. On va faire un peu le point sur l'organisation de Shabbat avec Eli Kling. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres activités dans la semaine sur lesquelles tu voulais insister qui y arrivent?
Dans la semaine, il y a l'activité comme chaque mois de la Team Project, donc avec Yehiel Atias qui fera partager un cours de Torah.
Student show.
Aux jeunes.
Student show, super. Voilà. Il faut qu'on les invite la prochaine fois à l'émission pour qu'ils nous racontent un peu le concept.
Oui, surtout que ça marche très très bien.
On est en train de préparer un beau projet aussi pour fin février avec les étudiants de Strasbourg, un événement très sympa. Je vous en dirai plus bientôt, mais en tout cas, ça va être un événement très sympa. Et puis après, on va se mettre rapidement, très rapidement, à l'organisation de Pourim, parce que ça va arriver.
Ça arrive très vite. Bah voilà. Oui, ça arrive dans un mois. On a qu'un mois d'Adar cette année, donc un mois après Tu Bishvat. En gros, dans un mois, tout simplement, c'est Pourim déjà.
On va essayer de le...
Et puis après Pessah, et puis en réalité, c'est... Stéphane, c'est bientôt Hanouka. Hein.
Ouais. Ah, les gars, je sais pas ce que vous avez bu là ce matin. Stéphane, merci beaucoup. Harold, il est en grande forme. Shabbat shalom et à très bientôt. Salut Stéphane.
À très vite. Ciao.
Allez, on enchaîne sur la dernière. On fait un peu le point sur la fin de cette émission. Harold, on arrive au bout de cette émission. Shabbat approche. On a un invité très particulier, dont on a parlé la semaine dernière, Eli Kling. Je crois qu'il y a tout un programme. Tu as un peu suivi. Donc ce soir, repas shabbatique qui est complet.
Organisé par le Merkaz avec le comité de la Grande Synagogue.
À la salle Bloom. Et surtout, il y a après un certain nombre de shiurim avec Souda Shlichit. Organisé par les différents Kadim, Salir Schler, 16h45.
Tout à fait, il y a un repas Shabbat midi avec les étudiants.
Effectivement, en salle Bloom, qui est aussi, à mon avis, assez complet avec le Team Project et J-Move. Mais si jamais les étudiants, vous voulez, essayer de voir avec eux. Et surtout, il y a Melavé Makado, on a parlé, qui démarre à 18h30 avec le BNE.
Avec le BNA qui va donc.
Et les enfants qui viennent aussi au Merkaz.
Donc c'est vraiment c'est un programme très complet. C'est un programme qui touche vraiment tous les Kadim et toutes les tranches d'âge.
Venez, on vous attend. C'est un beau Shabbat qui s'annonce, et puis on a eu une très belle émission, non ?
Oui, puis c'est un Shabbat Béchalar en plus, donc c'est un Shabbat vraiment particulier. C'est le Shabbat de la Shira. C'est un Shabbat qui ouvre des perspectives.
La Shira, le chant de
Moshe. Le fameux chant qui a été entonné par Moshe, par l'ensemble des Bnei Israël au moment de la traversée de la mer Rouge.
Asie, Shir, Moshe.
C'est quand la mer Rouge ouvre, ce sont des perspectives. C'est toujours un très très beau moment, ce Shabbat Shira. Et c'est un Shabbat qui nous donne déjà un petit peu un avant-goût de Pessah. Alors on a parlé de la préparation à Pourim. C'est sûr que Pourim, c'est un événement phare dans notre calendrier. Mais là, on sent déjà la fête de Pessah arriver. Et
c'est vrai qu'on est au milieu de l'hiver là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui approche.
C'est dans deux mois, et c'est là qu'on se dit que l'année a encore vraiment filé à une vitesse.
Une vitesse vite. Alors, cette émission, incroyable. On voit les différents invités qu'on a eus. Je crois que c'est vraiment aussi cette mosaïque de personnes qui font, d'hommes et de femmes qui font la vie communautaire, avec un point commun, tout le monde. Hein. Je crois qu'il y a une amour. Alors, je sais que c'est un peu comme ça, bisounours de dire ce mot-là.
C'est un côté un peu bucolique.
Ouais, mais je crois que c'est important. On le retrouve on a une émission qui était vraiment géniale, hein, et on est content de vous avoir tous avec nous, chers auditeurs.
Voilà, et puis je terminerai simplement avec peut-être une petite dédicace, hein, je me permets, puisque j'ai le micro entre les mains. Cette première dédicace, elle est pour Raphaël, qui fêtera sa bar mitzvah ce Shabbat. Et vraiment, je veux lui souhaiter, Raphaël Boisiz, je veux lui souhaiter un grand Mazal Tov. Et c'est pourquoi, je sais tous les efforts qu'il a fait pour préparer cette bar mitzvah. Donc on aura un grand plaisir à l'écouter ce Shabbat à la Grande Synagogue. Dimanche matin, il mettra ses tefillin à Rambam, parce qu'il est bar mitzvah ce Shabbat. Donc la mise des tefillin, du coup, se fait pour la première fois dimanche. Et je souhaite un immense Mazal Tov également à ses parents, Muriel et Jean-Paul, et à ses grands-parents. Et la deuxième dédicace, et peut-être qu'on terminera par ça, elle sera contente, c'est un très très bon anniversaire à mon épouse qui fêtera son anniversaire le lendemain de Tu Bishvat. Voilà, donc c'est lundi soir et mardi.
Shabbat shalom, n'oubliez pas tous les cadeaux. Hein. Shabbat shalom à tous, on était content de vous avoir avec nous.
Hola Omer, ¿qué tal amigo?
Un, dos, tres, dale.
Todo es la música, deja la política. No.